Salut à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses. Bien entendu, je salue le Steven Spielberg de la réalisation, notre ami Arnaud qui est ici présent et qui va réaliser 7h30 d'émission. Je salue, bien entendu, mon prédécesseur du libre journal des géopolitiques profondes, Nicolas Stocker. Toujours aussi passionnant, notre ami. Et puis, bien entendu, je salue Patrice, l'homme à la belle écriture. Il est là au standard. Il est là pour prendre vos commentaires, vos coups de fil. Et il m'apportera vos questions parce que l'objectif étant que nous ayons aussi des échanges avec vous, chers amis de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, je reçois l'ancien commissaire des renseignements généraux, le commissaire Hubert Marty Vraillance, énorme carrière. Il a été le bras droit de l'ancien grand patron Yves Bertrand. Il a vu tellement de choses, il a enquêté sur tellement d'affaires que ça fait même peur qu'il soit encore vivant aujourd'hui. Je me pose des questions. Est-ce que je ne suis pas avec un hologramme?
Non, Mike, tu n'es pas avec un hologramme. C'est bien moi, je suis là. Oui. Encore survivant.
Ben oui, justement, cher Hubert, quand on a eu cette carrière aussi importante au sein de l'appareil d'État, qu'on connaît tous ses secrets, ouais. Et qu'on écrit en plus sur ses secrets, d'ailleurs, ce dernier livre qui s'appelle comment s'appelle-t-il déjà ?
Face à l'état profond, 10 ans au RG de Mitterrand à Sarkozy, et c'est le tome 1.
Tome 1. Il y aura des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4, vous allez voir. Et ben, quand on a eu cette carrière, est-ce qu'on n'a pas peur des fois ? Je mets les pieds dans le plat, un peu pour sa vie.
Ben, tu as raison, parce que je suis, peut-être un miraculé, peut-être un survivant, peut-être que j'ai aussi des bons anges gardiens, hein, des protections, parce que je suis croyant. Hein. Donc quand on croit en Dieu, aux anges, aux archanges, il y a quand même parfois des aides qui arrivent, des aides surnaturelles. C'est vrai que c'est pas sans danger ce que je fais de dénoncer des secrets d'État, surtout que mon premier livre est très autobiographique. Je raconte ma carrière en détail au RG. J'ai volontairement laissé de côté les années que j'ai faites en Afrique, que j'ai faites au SGDN. Je parle de mes dernières années en sécurité publique en banlieue. Et puis surtout, comme j'étais victime de l'état profond qui m'a complètement ratatiné, hein, puisque j'ai perdu ma carrière brutalement, je décris que j'ai fait 3 mois de prison totalement indu, parce que j'étais victime d'un complot d'état, comme certains le sont. C'est vrai qu'il faut un certain courage, mais j'ai attendu le temps, la bonne fenêtre. La bonne fenêtre, c'était que d'abord, j'ai commencé à voir que mes ennemis, qui étaient à l'origine de ma chute professionnelle, Claude Guéant et puis Bernard Squarcini, ils étaient complètement pris dans des affaires judiciaires de plus en plus importantes. Et puis quand j'ai vu que c'était autour de Nicolas Sarkozy, le grand fossoyeur de la France, parce que le déclin de la France commence à mon sens avec son quinquennat. Heureusement qu'il en a fait qu'un seul, qu'il en a pas fait deux. Bon, derrière, ça a été quand même pas du tout le relèvement, ça a pas été brillant, que ça soit avec Hollande et puis maintenant avec Macron depuis 10 ans. Mais c'était avec Sarkozy, je dirais, le début du déclin irrépressible de la France. Alors, j'ai décidé de parler parce que l'époque, elle est quand même différente de ce que c'était il y a 20 ans. On a des médias comme les vôtres, les médias alternatifs, on a tous les réseaux sociaux qui permettent à des témoins de parler. Alors que quand j'ai commencé à avoir mes ennuis en 2002-2005, on était encore dans les médias subventionnés, officiels, les médias qui pouvaient s'exprimer, sur lesquels les gens pouvaient parler. Et quand on avait quelque chose de différent à dire, à apporter, on n'avait pas la possibilité de s'exprimer. En plus, on prenait des risques physiques et puis aussi des risques journalistiques et des risques au niveau de la réputation, puisqu'on payait des journalistes pour vous discréditer et écrire des articles malveillants contre vous, alors que vous dénonciez des choses assez graves, franchement assez graves. Alors, mon livre est sorti au mois de septembre, vous étiez venu m'inviter à sa sortie. Depuis, il s'est passé énormément de choses. D'abord, j'ai fait une deuxième édition, une troisième édition qui a été actualisée à début juin. Ces rééditions m'ont permis de préciser des événements, de compléter, d'actualiser, de remettre le doigt sur sur des problèmes assez graves que j'estime dans la police et la justice actuelle, qui me conduisent à dire que tous les dysfonctionnements très graves que nous voyons, par exemple l'affaire Liana...
C'est plus même des fonctionnements.
C'est plus, bien sûr. Le problème, c'est qu'on se dit, mais on paye des impôts, on paye des taxes, on est toujours mis à contribution pour faire fonctionner un État, et on se rend compte que cet État n'assure plus ses moyens, ses missions. Et quand on voit la déperdition de temps, la perte de temps, d'énergie pour des enquêtes comme Liana ou d'autres, sur des réseaux pédocriminels qui sévissent en France depuis longtemps, on est abasourdi.
Moi, je vais vous dire une chose.
Oui.
J'étais face à un commissaire divisionnaire à Bistrot Liberté.
Oui.
C'est-à-dire TVL, à droite, etc. Mm. Très bien. Et un ancien commissaire divisionnaire qui travaillait justement dans les questions comme Liana, etc. Sur la question pédo, voilà.
Oui.
Et il m'a dit, monsieur Borowski, en pleine émission, hein, vous pouvez voir d'ailleurs sur Bistrot Liberté, il n'y a pas de réseau, monsieur.
Il n'y a pas de réseau.
Il n'y a pas de réseau.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même des gens comme ça, ils ne veulent pas voir, ou peut-être, je ne vais pas dire qu'ils sont complices, ou peut-être que, bon, ils ferment les yeux sciemment, qu'il y ait des réseaux. C'est-à-dire que le fait qu'on parle de réseau, c'est parce que des gens comme vous, cher Hubert, qui avaient le courage de le dire, mais tous les autres ne le font pas, et ni la réalité.
Bien sûr. Alors, ce collègue divisionnaire est peut-être encore en poste?
Non, plus du tout.
Plus du tout en poste.
Honoraire.
Bon, donc il a vécu une certaine période. Et il faut dire une chose, c'est que les enquêteurs, généralement, quand ils sont consciencieux, ils font leur petite enquête, c'est très compartimenté, et ils n'ont pas souvent la hauteur de vue, l'éclairage pour voir un ensemble. Moi, je sais que beaucoup de gens, que ce soit dans le renseignement, vous savez que le maître mot, c'est le cloisonnement. Que ce soit, c'était moins visible au RG, mais que ce soit à la DST ou à la DGSE ou maintenant à la DGSI, vous avez un morceau de l'histoire, on vous demande d'enquêter sur un tout petit compartiment. Et pour connaître l'ensemble, il faut monter de plus en plus dans la hiérarchie qui s'évertue justement de cloisonner et de compartimenter le travail des enquêteurs. En PJ, c'est aussi un peu pareil. Heureusement, dans tous ces services, je dirais que globalement, il ne fonctionne pas bien de façon optimale. On voit tous les ratés judiciaires. Et il y a heureusement parfois quelques personnalités, quelques grands flics, quelques personnes qui essayent de voir l'ensemble. Mais en général, ces gens-là, ils sont cadrés, ils sont soumis à une hiérarchie politique. Il faut voir que quand même, que ce soit la justice comme la police ou la gendarmerie, sont soumises à une autorité. Il y a un principe hiérarchique qui est très fort. Et les gens, comme ils veulent faire carrière, les fonctionnaires, ils veulent surtout pas d'ennuis. Tout le monde tire le parapluie. Pas de problème, pas d'ennuis, pas de vague. C'est le grand pas de vague. Et là, ce principe fait que on passe à côté de choses très très graves. C'est très très grave. Alors quand on parle de qu'il n'y a pas de réseau, je suis désolé. D'abord, maintenant, la France, elle est submergée par le trafic de cocaïne. On le voit que les narcotrafics sont omniprésents. Et faisons le bilan. Moi, je dénonce dans mon livre le fait qu'on a cassé les renseignements généraux en 2008. C'est une victoire de Sarkozy. Il a démantibulé le renseignement intérieur français qui était assez performant. Et son ami et élève Darmanin, qu'est-ce qu'il a fait, lui? En faisant la réforme de départementalisation de la police, lui, il a détruit la police judiciaire. Donc d'un côté, on détruit le renseignement, et 10 ans après, on détruit la police judiciaire.
Tout ça, il faut dire les choses.
C'est un pur hasard.
C'est fait évidemment sciemment, parce qu'il faut que les bandits du haut, dont ces deux personnages font partie, soient prospères, et il faut que les bandits du bas, c'est-à-dire tous ceux qui sont racailles ou dealers, ou j'en sais rien, prospèrent aussi, en fait. Et le petit peuple entre les deux,
il est coincé. Et le petit peuple entre les deux, il a compris aussi une chose depuis longtemps, c'est qu'au maximum, il faut qu'il évite la machine judiciaire. Parce que les citoyens ordinaires qui vivent normalement, paisiblement, qui travaillent, qui attendent leur retraite, qui espèrent passer des vacances, essayent d'éviter le maximum des ennuis, parce qu'ils savent que dès qu'on met le doigt dans la machine judiciaire, c'est pas des solutions qu'on a, c'est de nouveaux problèmes. les nouveaux problèmes, c'est-à-dire qu'il va falloir suivre une procédure, prendre un avocat, ça va coûter des milliers d'euros, ça va coûter de plus en plus cher, et tout va dépendre aussi du juge avec lequel on va tomber, du juge d'instruction, du parquet sur lequel on va tomber, et dans les histoires de d'agression sur des mineurs, on parlait des réseaux pédophiles, je lisais les dernières statistiques. Darmanin a parlé de 70 000 procédures qui dormaient, c'est pas 70 000, c'est 85 000. Donc c'est déjà un peu plus que 70 000. Et on en a réveillé combien actuellement? Je pense à peu près 3 ou 4 000, les procédures les plus urgentes. Et de nombreux procureurs et procureurs généraux disent « mais de toute façon, la machine est bloquée parce qu'il y a une accumulation de crimes et délits en France, ça explose depuis une dizaine d'années, alors qu'il le nie, il dit qu'ils arrivent toujours à lutter efficacement. Je suis désolé, je pense que partout dans tous les quartiers de France, que ce soit dans les villes, dans les banlieues, dans les campagnes, on sait bien que la délinquance et la criminalité ont explosé. Et le gouvernement continue à faire la politique de l'autruche, continue par exemple, autre preuve de son imprévoyance, parlons des feux, les feux qui actuellement, on sait bien que sous Attal, on a gelé 45 millions d'euros qui étaient destinés au roulement des Canadair, on a remis ça aux calendes grecques et on voit le désastre actuellement sur la campagne française, tout ça pendant qu'on distribue des milliards pour aider la Zelensky à faire sa guerre.
Les gens ont appris ces jours-ci que justement 75 000 plaintes
aux affaires d'agression sexuelle sur des mineurs
c'est quand même pas rien, c'est assez grave.
Ouais.
Ne sont pas traitées.
Ouais.
Pourtant ça ne scandalise, ça ne choque pas le quidam, enfin c'est fou. Ouais. Quand même, hein. Imagine, ouais. Ça veut dire que il y a 75 000 mômes qui peut-être qui auront été agressés, qui vont avoir des traumatismes, qui ne grandiront pas comme il faut grandir, qui peut-être à l'avenir ne seront que dans les prestations sociales, parce que j'imagine qu'un traumatisme pareil, c'est pas évident pour faire des études, pour trouver un travail, etc. Peut-être même que parmi 75 000, beaucoup ne dépasseront pas un certain âge pour x ou y raison. Mais bon, c'est pas grave.
C'est extrêmement grave, d'autant plus que quand on voit le nombre de jeunes maintenant qui sont addicts à la drogue, que ce soit au crack, à la cocaïne, à d'autres types de drogues, c'est aussi les fameux gaz, le fameux, comment ça s'appelle déjà,
hilarant.
Le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, ouais, toute cette fuite en avant de la jeunesse, elle démontre quoi? D'abord une angoisse devant l'avenir, on ne propose plus d'avenir, le système paraît bloqué, et ça révèle aussi des traumatismes que ces jeunes ont subis. Alors s'ils ont subi des agressions sexuelles quand ils avaient 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, cette violence rentrée, elle ressort autrement, ressort par des actes, par exemple, qu'on n'explique pas pourquoi des jeunes vont aller poignarder des collègues au lit collège, ils vont s'acharner sur un professeur, un surveillant. Tout ça démontre quand même qu'en amont, il y a des faits graves qui ne sont pas traités correctement.
Moi, je vais vous dire, cher Hubert, déjà, nous sommes dans une crise...
Morale.
Pas connu. Moi, j'ai 45 ans quand même. Je suis pas né hier, hein. Donc voilà. Et je vois le différentiel entre mes 20 ans et aujourd'hui. Mais je n'ose même pas imaginer.
Ouais.
Parce que ça ne changera pas. Ça ne changera pas tant que les institutions, les gens qui représentent seront les mêmes. Ça ne changera pas dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et donc, je n'ose même pas imaginer dans les 5, 10 et 15 ans à venir. Parce que aujourd'hui, les gens se disent oui, il faut que Macron parte et tout. Mais je pense que ceux qui remplaceront Macron.
Bien du courage.
Sont peut-être pires que Macron. Non mais vraiment.
Bien du courage.
Parce que moi j'ai été par exemple au meeting de Gabriel Attal.
Oui.
Pour faire un reportage sur GPTV Investigation, allez-y. Mais Gabriel Attal ou Édouard Philippe, pour moi c'est pire que Macron.
Pire que Macron.
Ouais. Parce qu'ils sont encore d'un calibre inférieur à Macron, qui Macron lui-même était déjà d'un calibre inférieur.
Tout ça ne connaît pas l'optimisme.
Moi, j'ai vraiment... moi, ça me fait froid dans le dos. Et je ne pense pas, parce que le système va se mettre en branle très vite, parce que là, évidemment, on nous dit Marine Le Pen à 35. Je n'y crois pas du tout. Je pense pas que je suis persuadé, hein, et à chaque fois, je me dispute avec mes amis qui me disent, mais tu vas voir. Et à chaque fois, malheureusement, les résultats me donnent raison. Je ne pense pas que Marine Le Pen gagnera.
Ouais.
Moi, je me rappelle, j'étais ici avec Éric Morillo de Bistro Liberté. Et il me disait, ouais, mais on va avoir 250 députés. Et il n'y a pas eu, hein, il y a eu 150.
140.
140. Ouais. Pourquoi? Parce que. Le
barrage.
Eh oui.
Le barrage.
Mais ça marche. Mais le pire, c'est que ça marche.
Bah oui.
C'est ça qui est fou.
C'est
bon,
triste. Oui.
N'allons pas là-dessus. Parce
on
que,
pas
voilà.
là-dessus. Bon,
allons
je...
plutôt là, sur le bouquin. Moi, je préfère parler du livre parce que sinon, on va être. ça va être le moral à zéro.
Ouais.
Donc voilà, y a pas de moral à zéro. On est bien. On est au mois de juillet quand même.
Période de vacances.
Voilà.
Alors,
donc le bouquin,
alors,
ça parle de ces années des RG,
ouais.
Bérégovois, ouais. Ces affaires Bérégovois, les années 80, Mitterrand. C'est quand même une drôle d'époque, ça aussi.
Alors, c'est vrai que c'est une époque. Comparé au présent actuel, je dirais que c'était quand même une époque encore fantastique parce que on était quand même en croissance. On était encore jusqu'en 89-90, encore sous la guerre froide. Et cette guerre froide, elle n'avait pas que des inconvénients, elle avait aussi des avantages. On était dans on était encore dans l'après-guerre avec une France rayonnante où on avait quand même notre précaré africain qui était important derrière.
Et puis il y avait aussi, il faut dire une chose.
Mais
toute cette génération née avant-guerre qui tenait la route,
ah
qui
oui,
avait les épaules,
sûr,
ces mecs-là. Moi, je vais dire
sûr.
Un truc, Hubert.
Oui.
Quand je vois notre génération, ma génération, voilà, les années 80, et que je compare avec tous ces gars nés 1920,
ah oui,
10, 30 et tout ça,
bien sûr,
je me dis quand même, putain, on est quand même.
Ah bah oui.
On a quand même régressé. Hein.
On a beaucoup régressé. Quand on regarde le cursus. La formation, les études, le niveau de culture de tous ces gens-là, de gauche comme de droite, que j'ai eu la chance de connaître grâce à mon travail au RG, parce que le RG, comme je l'explique dans mon livre, c'était pas du tout comme on le retient avec des images de caricature, filocher des gens sur leur vie privée, etc. Tout ça, c'est vraiment anecdotique. L'essentiel du métier, c'était de connaître tous les décideurs, politiques, économiques, sociaux, associatifs, syndicaux d'un environnement, d'un département, d'un arrondissement, d'une région, ce qui permettait quand même de côtoyer des tas de gens de façon intéressante et par-delà les contacts en premier rideau, de nouer des discussions plus intéressantes, plus approfondies, pour avoir un petit peu le sentiment. J'explique par exemple dans mon livre comment j'ai discuté avec André Bettencourt. Je vais le voir dans sa petite mairie de Saint-Maurice-d'Étland en Normandie pour savoir est-ce que vous allez être Premier ministre de Mitterrand. On était début 86. Et là où il me parle un peu de sa jeunesse avec Mitterrand, de l'école des jésuites du 104 rue de Vaugirard. Bon, il n'a pas voulu parler avec moi de la cagoule parce que c'est un épisode qu'il préfère oublier, l'histoire de la cagoule, j'en parle dans mon livre. Mais ces gens-là, ils avaient quand même une structure, ils étaient solides, c'était des gars qui avaient une culture importante en droit, en histoire, qui connaissaient notre pays, qui connaissaient les autres, qui étaient ouverts. Et en même temps, je le dis, parce que je critique beaucoup de Mitterrand, mais certains m'ont dit que je ne l'ai pas critiqué assez, Mitterrand, même si c'était le prince des manigances...
C'était Machiavel.
C'était Machiavel. L'avantage qu'il avait, Mitterrand, c'est que quand même, il connaissait bien la France, et puis il aimait la France et les Français... Et tant qu'il a été président, la France a tenu son rang, il a tenu son rôle. Je rappelle quand même que ça soit tant qu'avec Thatcher, qu'avec Reagan, qu'avec d'autres dirigeants mondiaux, Mitterrand, il donnait le change, il était écouté. C'est-à-dire qu'à travers lui, la France était restée une grande puissance. Ça a commencé à baisser un peu avec Chirac, qui avait encore lui aussi un charisme, une certaine aura indéniable. Mais au niveau interne, et c'est ce que je dénonce dans mon livre, je dirais que on savait tous qu'il y avait eu des magouilles, des détournements, des assassinats politiques sous les 14 ans de Mitterrand. Et ce qu'on aurait attendu, et moi ce que j'attendais, j'étais encore commissaire, là j'étais jeune commissaire principal en 95, j'étais en Afrique, je m'étais dit, j'espère, je fonde beaucoup d'espoir sur Chirac pour qu'il y ait une remise à niveau de la France, que on soit un peu plus dans la moralité, qu'on aille faire la lumière sur des affaires glauques des émigrants, eh bien pas du tout, on n'a pas eu tout ça.
Pourquoi c'est pas fait?
Pour plusieurs raisons.
Il n'y avait pas justement un accord tacite entre les deux?
Mais bien sûr, il y a eu un accord tacite entre les deux parce que il y a eu quand même beaucoup d'arrangements politiques confidentiels, enfin clandestins entre Mitterrand et Chirac. Il fallait en 81, il fallait se débarrasser de Giscard. Donc on sait très bien qu'entre les deux tours en 81, Pasqua, avec tout, qui avait l'appareil, qui avait en main l'appareil du RPR, a fait voter en sous-main Mitterrand. Ils ont fait voter Mitterrand. Donc la différence de 400 000 ou 500 000 voix en faveur du Mitterrand, on peut dire que ça vient du clan Chirac.
Moi j'ai connu feu Éric Raoult.
Oui.
Pour des bonnes et mauvaises raisons, mais bon, j'ai bien connu.
Oui.
Éric Raoult, qui était un des.
Dans les Seine-Saint-Denis, il était maire du Raincy.
Il était député maire du Raincy, il était ministre de la ville. Et il m'a, c'est lui qui m'a lancé. Donc je l'ai connu très très bien. Et puis c'est lui qui m'a fait virer. Donc,
ça arrive souvent, c'est ça.
C'est souvent comme ça, tu vois. Donc voilà. Donc au début, il m'a lancé quand j'avais 20 ans. Et puis quand j'avais 33, il m'a viré. Donc voilà, donc ça, c'était comme ça.
C'était un proche de Pandreau, hein, connaissait
de Pandreau, Robert Pandreau, pareil. De chez Pasqua, etc.
Bien sûr.
Donc moi, j'ai un peu connu toute cette génération.
Ouais.
Et il me disait oui, on appelait les adhérents du RPR. Pour qu'ils votent et contactent leur famille pour faire voter Mitterrand.
Il faut voir que dans ces années-là, je redécris un peu l'ambiance de cette époque. Le principal souci de Chirac et du mouvement gaulliste à l'époque, c'était vraiment de virer Giscard par tous les moyens. Alors je reviens dans mon livre sur des épisodes qui n'ont jamais été vraiment ni développé ni étudié, parce que moi je suis friand de livres politiques et policiers, j'en ai lu pas mal, j'ai lu des auteurs comme François-Olivier Gisbert et tant d'autres qui ont écrit des choses, mais je voudrais justement, quand je fais mes conférences, je mets le doigt sur deux problèmes qui ne sont jamais vraiment traités dans la politique française. Un, c'est comment est mort vraiment Georges Pompidou. Et moi j'ai mis des réserves sur l'histoire de sa maladie.
Pourquoi ?
J'en parle dans mes conférences. Il avait la maladie de Waldenström, qui est un mode de cancer, mais très très particulier, qui en moyenne, qui touche à peu près 20 personnes, 20 à 30 personnes par an en France. Donc, imaginons pourquoi cette maladie si particulière a touché Georges Pompidou, le président de la République. On va me dire, oui, c'est tout à fait possible. Mais enfin, quand on est président de la République, en général, non seulement on veille sur la sécurité, mais on veille même aussi sur sa sécurité alimentaire, on regarde ce qu'il mange, parce qu'il y a quand même des gens qui vont tester, etc., voir qu'on ne va pas empoisonner le président lors de ses repas officiels en France ou à l'étranger. Je vous précise que Mitterrand n'aurait jamais bu cette eau.
On a la radio aussi, hein.
Il n'aurait jamais bu, il ne buvait jamais de l'eau dans des bouteilles en plastique. Il ne voulait que des bouteilles en verre et qu'elles soient débouchées devant lui. C'est-à-dire que lui-même n'allait pas boire n'importe quel breuvage parce que peut-être il pouvait douter qu'on puisse attenter à sa vie. Donc quand moi je vois que Pompidou était suivi à la trace par la CIA, essayait de recueillir ses urines. Excusez-moi du sujet, mais recueillir ses urines pour voir l'évolution de la maladie de Pompidou. Alors, est-ce que c'est...
Mais comment ils arrivaient à recueillir ses urines?
Écoutez, ils se démerdaient. De toute façon, ils avaient des espions à l'Élysée.
Ça veut dire que des gens à l'Élysée...
Ils avaient des espions...
Travaillaient pour les Américains.
Mais bien sûr, ils travaillaient déjà pour la CIA. Faut dire que l'ambassade américaine à Paris...
Elle
est à côté. Et c'est un immense bunker d'espionnage, comme toutes les ambassades américaines dans le monde. Il y a des systèmes d'écoute, de surveillance qui sont hors pair. En gros, je l'expliquais dans mes conférences que je faisais quand j'étais au SGDN, la NSA suit quasiment minute par minute tous les chefs d'État et tous les premiers ministres du monde. Et on en a eu la preuve à plusieurs reprises, parce que quand il y avait par exemple des tentatives de coup d'État ou des chefs d'État qui étaient l'objet d'attaques, on tirait sur eux, qu'il y avait des tentatives d'assassinat, les premiers à savoir c'était la NSA et la CIA, parce qu'ils suivaient en permanence. Donc je reviens à l'histoire de Pompidou, moi je vois que la CIA suivait de près Pompidou, ça me semble pas vraiment pour le soigner, parce que quand même Pompidou était un président qui s'était inscrit dans la lignée politique étrangère et de défense du général de Gaulle. Et il embêtait énormément les Américains parce qu'il avait maintenu des bonnes relations avec l'Union soviétique. Il allait régulièrement voir Brejnev. Une de ses dernières sorties internationales, c'était en Islande avec Brejnev. Et n'oublions pas non plus que les pourparlers pour la paix au Vietnam s'étaient déroulés à Paris. Hein. C'était avenue Kléber, où il y avait Kissinger qui venait discuter avec les Nord-Vietnamiens. Et que d'héberger ces délégations américaines et nord-vietnamiennes, alors que nous étions l'ancien colonisateur de l'Indochine, oubliez que les Américains avaient voulu nous remplacer, mais globalement, qu'ils avaient échoué complètement, comme le disait le général de Gaulle dans le discours de Phnom Penh, Pompidou gênait énormément. Donc, il fallait éliminer, et je ne pense pas que son cancer soit vraiment du hasard. Et quand on remonte un peu plus loin, même moi je me pose des questions maintenant, on va dire que je suis peut-être un peu archi-complétiste, je me pose des questions sur la mort de De Gaulle lui-même.
Ah bon ?
Oui, on m'a envoyé
pourquoi
des messages.
Eh ben, je vais l'entendre ça.
Voilà. Alors, depuis que j'ai sorti mon livre, je suis contacté par des gens un peu curieux, et il y a quelqu'un qui m'explique que le général De Gaulle aurait reçu une flèche empoisonnée dans le parc de la Boisserie, que quelqu'un lui aurait tiré quelque chose dessus, et qu'en fait, il se serait empressé d'aller vite chez lui, qu'il serait tombé dans sa bibliothèque de la Boisserie. Alors, voyons une chose. On nous a tout de suite servi la rupture d'anévrisme, le choc, le chêne qui est foudroyé. Je dirais que cette version, elle est plausible. Elle est tout à fait plausible. Effectivement, De Gaulle a pu avoir un anévrisme, faire une rupture et tomber dans... Mais attendez, il n'y a jamais eu d'autopsie du corps de De Gaulle. Il n'y a rien eu. On n'a jamais fait d'analyse du sang. C'était un personnage tellement important, tellement solennel, tellement historique pour la France, que personne ne se serait avisé de demander un examen.
Oui, mais une flèche.
Alors,
une flèche ou un genre de petit truc
C'est quelque chose. Il y a eu un empoisonnement. Un empoisonnement de De Gaulle.
C'est pas une flèche d'un arc comme ça, quoi, c'est ça que je veux dire.
Moi, je pense que de toute façon, même s'il était bien surveillé, protégé à la Boisserie, des équipes comme ça, soit la CIA ou le Mossad, sont capables de surveiller son environnement et de faire un assassinat comme ça. Alors, je me pose la question de savoir quel était l'intérêt d'éliminer De Gaulle en novembre 70, puisqu'il est mort le 9 novembre 70. Eh bien, écoutez, moi, je vois beaucoup de raisons.
D'abord, pourquoi, lesquelles ?
Alors, d'abord, si vous avez vu, je suis allé voir le film La bataille de Gaulle, les deux,
oui.
Et je connaissais quand même aussi l'itinéraire du général de Gaulle. Vous voyez qu'en 70, c'est le dernier grand survivant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le dernier. Puisque Roosevelt est mort en 45, Staline en 53, Churchill, il est mort en 65, et en 70, il n'y a plus que De Gaulle qui reste le dernier survivant historique de la Seconde Guerre mondiale. Quand on sait que pendant toutes les guerres, la première comme la deuxième, il y a de nombreux secrets qui se passent dans les opérations. Il y a de nombreuses choses cachées, il y a des choses clandestines, il y a des secrets que n'échangent que les chefs d'État à un certain moment. Pourquoi ils prennent telle mesure et pas telle autre ? C'est parce qu'il y a des arrangements, il y a des choses qui sont conclues derrière, qui ne sont pas dites en surface, qui ne sont pas dites au grand public. Je pense que De Gaulle, d'abord, détenait des secrets, et qu'il était le seul à pouvoir expliquer. D'abord, il n'était pas très bavard, mais voir une chose, c'est que n'étant plus au pouvoir, ne voulant plus y revenir, il avait une liberté de parole et de manœuvre qui pouvait être très gênante. Je dis qu'un De Gaulle qui continue à vivre pendant 2-3 ans, d'abord, par exemple, il aurait pu contester la réforme monétaire sur la parité hors dollar qui a été prise par Nixon le 15 août 1971. C'est là où on a eu une grande réforme du système monétaire mondial en décalant la parité hors dollar. De Gaulle s'y serait nécessairement posé. Voyons aussi autre chose, c'est qu'en 70, le seul chef d'État qui était allé voir De Gaulle pendant sa courte... Il est parti en avril 69, il est mort en novembre 70, et à peine un an et demi hors du pouvoir, en pouvoir faire il est allé voir Franco. Qu'est-ce qu'il a dit avec le général Franco? C'était encore un personnage énigmatique, Franco, de la guerre, parce qu'il avait été aidé par Mussolini et Hitler. Il avait donné tellement de gages aux alliés, notamment en refusant que les sous-marins allemands soient abrités dans les ports espagnols, qu'il s'était ménagé une porte de sortie pour rester jusqu'à sa mort. Et c'était un membre important de l'OTAN, l'Espagne de Franco. Donc De Gaulle, il a une liberté de manœuvre Qui peut-il aller voir à ce moment-là s'il est chef d'État? Il peut aller voir Mao Tse-tung en Chine. Il peut retourner voir les Soviétiques. Il peut aller en Amérique latine. Souvenons-nous de son voyage à Mexico, du voyage même controversé au Canada. C'était un homme qui avait repris toute sa liberté de manœuvre et de parole. Donc à l'époque où les Américains sont... en 70, ils commencent à perdre pied au Vietnam. Les Américains se rendent compte que finalement, De Gaulle, qui les avait déconseillés de faire les guerres du Vietnam, De Gaulle, il avait raison. Donc s'il continuait à aller discuter avec le monde communiste, avec les pays d'Amérique latine, ça pouvait être un gêneur, De Gaulle.
Quelque... Mais est-ce que le général De Gaulle, lorsqu'il a quitté le pouvoir en 69, ne s'est pas mis vraiment en retrait? Parce qu'on a, pas, on a des déclarations après 69?
À mon sens, je crois qu'il n'en a plus fait. Il n'a plus fait de déclaration publique parce qu'il ne voulait pas gêner, son successeur Pompidou. Mais quand on connaît De Gaulle, d'abord, il était en train d'écrire, de continuer d'écrire ses mémoires de guerre qu'il n'a jamais terminées. On l'a empêché finalement.
C'est vrai.
Ses mémoires de guerre ont été interrompues.
Jusqu'à quelle année?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ces mémoires de guerre doivent s'arrêter, il me semble, en 43, à peu près.
Ah oui, donc entre 43 et 69,
je pense qu'il
avait des choses à dire.
Ah ben, je pense que De Gaulle avait beaucoup de choses à dire, où il aurait expliqué ses positions, il aurait détaillé pourquoi il était toujours opposé aux Américains depuis la guerre, pourquoi il était opposé à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, à l'époque c'était le marché commun, pourquoi il était... en 67, violemment anti-Israël dans la guerre des six jours, pourquoi il préférait privilégier les discussions avec le monde arabe, pourquoi il avait favorisé l'émancipation des colonies françaises. Donc je pense que on aurait eu un De Gaulle qui vive encore un an ou deux, ça aurait été vraiment du poil à gratter pour les Américains et ça aurait évité les mesures qu'on a vues ensuite, qui ont été désastreuses pour moi, la rentrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. La loi du 3 janvier 73 sur le financement de la Banque de France, enfin de l'État français sur les marchés financiers internationaux, toutes sortes de mesures, je pense, sur lesquelles De Gaulle se serait opposé pour maintenir une souveraineté nationale.
C'est-à-dire que si De Gaulle, imaginons, voyait que tout ça se passait,
oui,
et donnait les conséquences d'aujourd'hui, s'il avait dit quelque chose,
ben je pense que...
Est-ce que ça aurait eu un poids tel dans le monde que ça aurait pu l'empêcher en partie ou pas?
Mais moi je pense que oui. D'abord, quand il est mort en 70, nous avons quoi? Nous avons au Parlement l'Assemblée d'une majorité gaulliste écrasante qui a été élue en 68. En 68, vous savez que les manifestants de mai 68 demandaient la démission de De Gaulle. De Gaulle, il dit non, vous n'aurez pas ma démission, mais je dissous l'Assemblée et on fait des élections qui se sont conclues par un raz-de-marée gaulliste. Donc de 68 à 73, on avait une Assemblée de majorité UDR, c'était pas le RPR, UDR écrasante, qui était, quand on voit les mesures... Bon, au niveau intérieur, c'était sous la férule de Jean Foyer, le député du Maine-et-Loire, c'était quand même assez réac au niveau intérieur, mais au niveau international, c'était farouchement défense de la France et d'une Europe limitée à l'alliance avec l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, où la France conservait une part prépondérante, parce qu'à l'époque, on était moteur. N'oublions pas que l'Allemagne, elle était encore divisée en deux. Donc la France avait un poids déterminant sur l'Europe. Et prendre des décisions de détente avec l'Union soviétique ou avec la Chine, ça dérangeait fortement les Américains, c'est évident. Donc moi, je dirais, on aurait eu un De Gaulle encore deux ans qui ait sa liberté de parole et qui puisse dire, là, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça aurait influencé les députés en France. Et puis, attendez, il avait quand même une aura, un charisme qui était unique en Europe. Il n'y avait que lui qui avait été...
Ce que j'adore avec Hubert Barty Vraillant, c'est que je l'ai interviewé, je ne sais pas, peut-être 100 fois, et je suis toujours surpris par les révélations. Parce que là, du coup, je ne m'attendais pas du tout, je vous le dis, hein, chers amis auditeurs, je ne m'attendais pas du tout qu'on allait parler aujourd'hui du possible meurtre du De Gaulle et de Pompidou.
Mais oui, mais écoutez, je pense qu'on est quand même à une époque, maintenant on essaye de... On est dans les cold cases, je pense que ce n'est pas que fantaisie. D'abord, le cancer de Pompidou, il est très étonnant, et la mort de De Gaulle, entre nous, quand moi je vois, on va reparler après de la mort de Bérégovoy, je vois qu'il n'y en a eu aucune enquête sur De Gaulle. On nous a dit tout de suite, voilà, il a eu une rupture d'anévrisme, etc. Tout le monde a accepté la version telle qu'on nous l'a servie. N'oublions pas quand même, et quand on voit le film de De Gaulle, qu'il avait quand même essuyé de nombreuses tentatives d'attentat à De Gaulle.
Nombreuses.
Il y a eu quand même...
Pour le petit Clamart.
Il y a eu le... Alors justement, je voudrais vous reparler du petit Clamart, parce que j'ai eu la chance, il y a 25 ans, de discuter avec un participant du petit Clamart. Bah,
est-ce que c'est Louis de Condé ?
Non, c'est pas lui.
Bah, parce que moi, je l'ai reçu. Hein,
ah ben, bah, c'est bien.
Louis de Condé.
C'est
et bien. Ici, d'ailleurs.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il parle du rôle de la CIA dans l'attentat du petit Clamart ?
Non.
Non.
Il n'en parle pas, je pense pas qu'il veuille en parler.
Bon.
Voilà. Bon. Mais par contre, lui, malheureusement, je pense qu'il n'était pas une des têtes pensantes et il en a payé chèrement. Parce que lui, il était vraiment idéologue de l'antigaullisme.
C'était un antigaulliste, idéaliste et convaincu.
Voilà.
Moi, il se trouve que j'ai discuté en 2002 avec un agent de la CIA qui était vraiment intéressant. Il s'appelait Leios Martin. Il est mort en début d'année. Et quand on voit l'itinéraire de ce... C'était un Hongrois, c'était un aviateur hongrois qui ne supportait pas les communistes. En 1956, il est allé pousser la porte de l'ambassade américaine. Il a été engagé par les CIA, qu'il a rapatrié très rapidement en France. Donc en 1958, il fait partie de l'équipe qui monte à l'assaut de l'hôtel de ville de Paris pour réclamer le retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc ça veut dire qu'en 1958, la CIA a aidé de Gaulle pour revenir au pouvoir, mais que rapidement, au bout de 2-3 ans, les Américains et la CIA ont complètement changé, parce qu'ils voulaient pas que, notamment, ils ne voulaient pas que la France donne l'indépendance à l'Algérie. Ils préféraient que l'Algérie reste française.
Les Américains ?
Oui, apparemment.
D'accord.
Apparemment, et ils n'ont pas été...
Parce que c'est pas ce que dit la version officielle. Hein. La version officielle dit que soviétiques et américains ne veulent plus que l'Empire appartienne.
Oui, oui, certes, mais je pense aussi que les Américains, en 62, avaient compris que si la France partait de là-bas, ça allait tomber dans l'escarcelle soviétique.
Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'est tombé.
Et c'est tombé dans l'escarcelle soviétique. Donc il valait mieux, à tout le moins, que la France reste présente là-bas, plutôt qu'on laisse tomber l'Algérie dans les mains avec Boumediene, dans les mains de l'URSS. Donc ce Leios Martin, il explique qu'il y a eu un retournement de la CIA, soutien en 58, a pris contre De Gaulle, et lui, c'était le gars qui a tiré avec sa mitrailleuse Sten au petit Clamart, qui a essayé de tuer De Gaulle, et il explique bien que la CIA les a aidés, leur a donné des renseignements, les a encouragés à faire cet attentat. Et alors, en 62, si ça avait réussi l'attentat du petit Clamart,
ils avaient un candidat ?
Ah, justement, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que les Américains avaient comme pièce de rechange ? À l'époque, je ne connais pas assez l'état de la politique française en 62, mais je pense qu'ils auraient trouvé... Alors, nous avions à l'époque, dans les années 60, quand même, trois hommes politiques fortement atlantistes. Et j'en parle dans mon livre. Les trois, c'était Le Canuet.
Bah oui, je pensais à lui
Canuet,
tout de suite, là.
Candidat contre De Gaulle en 65.
Un centriste.
Centriste.
Beau gosse. On disait que c'était Kennedy, en gros.
Voilà, modèle Kennedy, etc. L'autre candidat qu'ils avaient, c'était Giscard. On va en reparler. Et le troisième qu'ils avaient, c'était Mitterrand. Parce que Mitterrand, j'aurais été un atlantiste, il était opposé à De Gaulle. Même si après, il a changé dans sa politique. Donc.
Et puis Mitterrand, il était colonialiste.
Oui, mais complètement colonialiste.
Il a fait guillotiner je ne sais combien de FLN.
Il a fait fusiller des gens quand il était mis à l'intérieur de la justice. Lui, il était vraiment pour le maintien de l'Empire français, complètement. Alors, en 62, je ne sais pas qui les Américains auraient eu comme recharge, comme un politique de rechange, mais le tout est, c'est que quand De Gaulle donc disparaît en 70, et pour moi, dans des conditions qui mériteraient des recherches. Je suis quand même étonné que personne ne se soit vraiment posé la question. On a admis, voilà, il a eu un anévrisme. Je dirais, mais c'est peut-être vrai. Mais si ce n'est pas vrai, je dirais que c'est quand même extrêmement grave. Ça veut dire que celui à qui on doit l'indépendance nationale, à qui on doit que la France a retrouvé après la guerre sa grandeur, sa souveraineté, ne serait pas mort de mort naturelle. Et quand on voit à quel point De Gaulle dérangeait, on le voit bien dans les deux films, et quand on pense à l'attentat du petit Clamart, puis il y a eu d'autres tentatives d'assassinat moins connues contre De Gaulle. Donc c'était un personnage qui gênait l'Empire américain. C'est un personnage qui gênait vraiment l'Empire américain.
Et alors, on va continuer cette discussion passionnante, mais avant ça, on fait le bobino.
Oui.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. et podcast.rc.fr.
Faire. Merci à vous d'être si nombreux comme tous les samedis. On est avec Hubert Marty-Vraillant. On va parler voilà, de ces meurtres qui n'ont jamais été réellement résolus en 5ème République, Boulin, Bérégovois, etc. Et d'autres. Hein. On apprend aussi tiens, peut-être que les Pompidou et Général de Gaulle aussi y sont passés. Mais n'oubliez pas, avant ça, voilà, le Bobino, c'est quoi ? C'est vous dire que vous êtes les patrons de Radio Courtoisie. C'est vous aussi qui faites que nous sommes libres et indépendants. Si nous étions dans une radio comme l'est la concurrence avec des annonceurs, etc., eh bien, c'est les annonceurs qui choisissent. Vous pensez bien que les annonceurs, Ariel, Danone ou Renault, ne voudraient pas avoir sur les antennes un. Le commissaire des RG Hubert Marty-Vraillant, parce que bon, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est ce que dit le système, ce qui n'est pas notre cas. Donc, continuez à soutenir Radio Courtoisie pour que des émissions comme celle-ci puissent exister et qu'on puisse donner la parole à des voix comme celle du commissaire Hubert Marty-Vraillant. Donc, on a aussi Pompidou, visiblement oui. Pompidou, peut-être que derrière la CIA.
Alors, quand donc Pompidou décède le 2 avril 1974, moi j'avais 16 ans à l'époque. Je m'intéressais de près déjà à la politique, au renseignement, services secrets. On voit tout de suite qu'il y a quand même quelqu'un qui a mal engagé sa campagne, c'est Chaban Delmas, qui a voulu tout de suite être candidat. Et alors, il faut dire que le canard enchaîné lui a bien sabonné la planche à cette époque-là. Puisqu'on a redéterré des problèmes fiscaux, la mort curieuse de sa première femme dans un accident de voiture, etc. Enfin, on a tout fait pour le déstabiliser. Et à cette époque-là, 1974, les Américains qui surveillent la politique, qui surveillent la France, faut être clair, qui surveillent clairement la France depuis 1918. Moi, je crois que les Américains n'ont jamais vraiment quitté le sol français depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ils ont comme candidat là, ils ont Giscard et Mitterrand. Le problème c'est qu'en 1974 Mitterrand il est allié avec les communistes, donc c'est pas possible que Mitterrand passe. Donc il va falloir absolument connaître Giscard. Le problème de Giscard c'est que il a pas trop préparé sa campagne et il lui faut des fonds pour faire sa campagne. Il faut des fonds pour payer les gens, pour faire des affiches, pour acheter des soutiens. Et maintenant, on le sait, il a été aidé par l'Opus Dei et la Banque de la Matessa et la Banco Popular d'Espagne. En gros, si on veut être clair, Général Franco a sans doute adoubé plus ou moins Giscard d'Estaing. En tout cas, il a tout fait pour barrer Mitterrand, qui est allié avec les communistes. Donc, c'était pas possible d'avoir Mitterrand, parce que nous étions encore en pleine guerre froide, donc pour Franco et les autres chefs d'État européens, il était impossible d'avoir un président de France qui soit allié avec les communistes. Donc ils ont tout fait pour aider Giscard, et c'est là qu'on commence à être dans des affaires un peu foireuses, un peu glauques, c'est que le gars qui s'occupe du financement de la campagne de Giscard, c'est le prince de Breuil, le prince Jean de Breuil, qui était un homme de confiance de Giscard, parce qu'il était avec lui dans la course des Républicains indépendants. Les Républicains indépendants, où il y avait d'ailleurs Bettencourt, à un moment, qui était membre des Républicains indépendants. Ça rassemblait aussi le CNIP, le Centre National des Indépendants Paysans. Oui. En fait, de paysans, il y avait des députés du CNIP qui étaient députés du 16e arrondissement, hein, cette époque des paysans. Et donc, ce prince de Breuil, il finance, il a les documents sur le financement de la campagne de Giscard, et voilà que Giscard ne le prend pas comme ministre et que De Breuil commence à ruminer sa revanche en disant que c'est pas bien. J'ai aidé Giscard, j'étais 5 ans ministre des Affaires algériennes, et il était ministre des Affaires algériennes De Breuil.
Mais c'est vrai que De Breuil, c'était quelqu'un d'assez important auprès de Giscard,
oui.
Mais on se rappelle très peu de lui.
Très peu. Très très peu, parce que une fois qu'il a été élu, je pense que Giscard, il a toujours voulu donner une image neuve, moderniste, ouverte de sa présidence. On arrivait dans une espèce de transparence politique, et que De Broglie représentait le côté un peu caché, le côté clandestin des arrangements politiques, parce que De Broglie avait été aux accords d'Évian, il a participé aux accords d'Évian, dans lesquels la France s'est fait complètement rouler dans la farine, parce que quand on voit que les accords d'Évian permettaient à la France de rester, d'avoir une présence en Algérie, de garder un peu du pétrole, de commercer de façon favorable avec l'Algérie, et on sait que dès qu'il y a eu l'indépendance, les Algériens ont tout de suite foulé les accords d'Évian immédiatement. Donc Giscard se méfie de ce prince qui est de sa famille éloignée parce qu'il sait visiblement trop de choses sur lui. Les relations se dégradent énormément et tout se noue en décembre 76. Le 5 décembre, Chirac crée le RPR et De Broglie, dès qu'il voit le RPR arriver, dit bah, « ça y est, ça va être mon nouveau mouvement politique puisque je suis en froid avec Giscard ». Et qu'est-ce qu'il a sous sa besace? Bah, il a les documents sur le financement de la campagne de Giscard. 5 décembre, c'est la création du RPR. Le 24 décembre, 19 jours après, le prince De Broglie est assassiné dans le 17e arrondissement, rue des Dardanelles. Et pour faire cet assassinat, eh bien Giscard, il a eu recours à un policier que j'ai eu la chance de connaître, avec qui j'ai discuté, qui s'appelait Guy Simonet. Ce Guy Simonet, qui était un beau gosse à l'époque, hein, il était originaire de... C'était un rapatrié originaire de Tunisie, il portait beau, il avait beaucoup de charme avec les femmes, il connaissait le milieu interlope de Pigalle, les petits truands de Pigalle. C'est lui qui a recruté le tueur de Broglie. Et hélas, les choses ne sont pas passées comme il l'avait imaginé, comme il espérait. Quelques jours après, ils sont arrêtés. Alors déjà, on voit tout de suite que Poniatowski qui explique que l'affaire De Broglie, c'est une petite affaire ridicule de dette sur le restaurant La Reine Pédo, que circulait, il n'y a rien à voir, l'affaire est résolue. En fait, ils ont voulu remettre cette histoire dans le contexte d'une histoire de droit commun, de dette, alors que c'est une histoire éminemment politique. Donc, on écrase l'enquête. On met en prison De Varga, le tueur Fraîche, et puis le fameux Simonet. Et le problème, c'est que le prince De Broglie, il avait fait quelques copies de ses dossiers. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu apprendre lors de mes enquêtes, il avait fourni une copie à Fontanet, le ministre Fontanet, qui avait été tué par deux balles de 11-43 dans
lui
le
aussi,
dos.
Du coup.
Lui aussi, tué, et affaire jamais résolue. Hein. On n'a jamais trouvé les assassins de De Broglie. Et surtout aussi, le plus important, la personne à qui il avait donné les dossiers, serait Robert Boulin. Donc Boulin, lui aussi, savait certainement des choses gênantes sur Giscard d'Estaing. Je rappelle quand même que quand on lit les témoignages de ministres de Giscard, quand ils apprennent, ils sont informés de la mort de Boulin, il n'y a pas de mots de compassion ni attristé de Giscard d'Estaing vis-à-vis de Boulin. Au Conseil des ministres, tout le monde est là, la place de Boulin est libre. Et on dit, mais ça a été un suicide, et il a fait un coup de déprime, et Giscard n'ira pas ses obsèques, il y sera à la chasse, au moment des obsèques de Boulin. Et puis après, c'est donc toute cette machine de travestissement de la réalité, où on fait passer un assassinat pour un suicide, et où l'affaire maintenant, elle est enfin donnée au Paul Colquise, qui est un notaire, et cette affaire Boulin, elle doit son élucidation grâce à la persévérance de sa fille Fabienne Boulin, qui depuis le début est persuadée que c'est un assassinat et pas un suicide, et elle a eu l'appui de quelques magistrats, de quelques policiers, et puis d'un témoin, Elio Darmon, qui a voulu s'exprimer... Voilà.
Qui est mort.
Le Elio Darmon dont je parle, qui avait eu deux balles de fusil de chasse tirées contre lui fin août, et qu'on a retrouvé début février, mort chez lui, d'une crise cardiaque.
Mais attendez, c'est-à-dire que, parce que Boulin, c'est quoi, 78,
79?
79.
27 octobre, 79.
Ça veut dire que, octobre. 47 ans après,
oui.
Cette histoire, elle ne doit pas être totalement résolue, et il y a des gens qui ont fait taire le dernier témoin, on va dire, alors, 47 ans après.
Absolument. Alors, est-ce qu'on l'a fait taire parce qu'il parlait trop sur l'affaire Boulin?
Oui, parce qu'à un moment, il était visible sur les réseaux sociaux.
Ah, ben, bien sûr, il a témoigné à visage découvert, il a dit que l'assassinat de Boulin, c'est un secret de Polichinelle. Moi, je peux vous témoigner que j'étais là à la fameuse boîte échangiste Le Roi René à Ville-d'Avray, où j'ai entendu les conversations de Bizet avec les gens qui avaient été chargés de donner une danse, elle explique de donner une correction à Boulin et que ça, ça avait dérapé que ça fait déraper en meurtre. Je crois pas du tout à l'histoire de que ça ait dérapé, parce que je pense que ils avaient prévu que les choses se passent pas bien. Parce que quand Boulin, de toute façon, avait dû récupérer des dossiers dans son cabinet, dans son coffre-fort de ministre, ces dossiers lesquels ils avaient avec lui, ils devaient les remettre, ils devaient être l'objet de menaces et de chantage, monsieur Boulin. Et pour que ça se finisse mal comme ça, on avait quand même pas pris des enfants de cœur, hein, puisqu'on a retracé les gens qui avaient été à l'origine de la mort de Boulin, ce sont vraiment des repris de justice, des gens qui étaient très connus pour avoir des condamnations pour violence, pour vol, etc. Donc, là, à mon sens, l'assassinat était prémédité, même si après il nous explique, Monsieur Darmon, que ça a dérapé, que les choses n'auraient pas dû se passer comme ça.
Mais Monsieur Darmon aurait été partie prenante ou il était témoin? Quel rôle aurait-il eu?
Non, il n'a pas été partie prenante. Et il était. Alors, il explique qu'il habitait en face. Cette fameuse boîte à Partouze, le Grand René, et qu'il allait régulièrement là-bas parce qu'il connaissait le propriétaire. D'ailleurs, il y en a un propriétaire qui avait été tué, victime d'un règlement de compte. Il connaissait aussi son successeur. Et il connaissait tous les gens qui avaient là-bas. Alors, il explique que dans cette boîte, il y avait des policiers, des magistrats.
Notamment le
fameux procureur Louis Bruno Chalret, qui est à l'origine du maquillage de l'affaire Boulin, qui avait des truands. Et qu'il y avait des gens du sac. Et c'est donc qu'il dit, un soir j'arrive, c'était 2-3 jours après la mort de Boulin, et je vois Pierre de Bizet, qui était le patron du sac, avec 3-4 bonhommes autour de lui, notamment un gars qui faisait partie du SDEC, à l'époque c'était pas la DGSE, c'était le SDEC, et ces gens-là expliquaient que l'affaire de Boulin s'était très mal passée, que ça avait dérivé avec un meurtre, et de Bizet expliquait que le patron... Alors, il explique que le grand là-haut va pas être content. Alors le grand, on ne sait pas si c'est.
Est-ce que c'est Chirac ou Giscard? C'est ça le truc.
Non.
En fait.
Alors on ne sait pas si c'est Giscard ou Chirac, mais en tout cas, dans l'histoire, presque disait de Bizet, il y en avait un qui semblait bien impliqué. C'était Pasqua. Hein. Il semblait vraiment au courant de cette opération destinée à éliminer Boulin. Alors ce monsieur Darmon, il est quand même intéressant aussi pour plusieurs choses. C'est que il était non seulement en contact avec le SAC. Avec le milieu du crime français, mais il avait aussi un officier traitant du Mossad qui s'appelait Tibor Rosenbaum. Et Tibor Rosenbaum, il est mort un an après, il est mort en 80, mais c'était un officier traitant connu du Mossad et qui traitait donc ce monsieur Darmon. Donc est-ce que monsieur Darmon a été tué par le milieu français 45 ans après? Ça me semble peu probable. Est-ce qu'il a été tué par des gens du SAC? Survivant du SAC.
Bon, ça, c'est peu propre. Ils doivent être très vieux.
Assez vieux, oui. Très, très vieux, oui. Et ou alors par des gens du Mossad, en disant, ce monsieur Darmon, comme il commence à faire ses confidences, à raconter ses souvenirs, il pourrait être gênant pour nous. Le tout est, c'est qu'il y a bien des gens qui lui ont tiré des coups de fusil de chasse en août dernier, dans sa maison de Brandérion, dans le Morbihan. Il y a bien eu une tentative de meurtre. Et 6 mois après, on le retrouve mort d'une crise cardiaque. Moi, je pense quand même que la justice devait être un peu plus curieuse et savoir de quoi est mort réellement ce dernier témoin de la mort de
Boulin. Alors, j'ai des questions d'auditeurs. Oui. Une auditrice qui appelle nous a dit, dans le livre « La sorcellerie au cœur de la République » de Madame Jumel, magistrate, on explique que l'on peut tuer dans l'occulte en haute magie, poupée de cire, poupée de son, et la flèche correspond à un acte magique pour tuer.
Écoutez... Si vous croyez à l'irrationnel, c'est possible. C'est possible. Je pense qu'elle fait référence à De Gaulle. L'histoire de la fléchette, elle fait référence à De Gaulle. Alors, vous savez, si on peut dans l'irrationnel aussi, De Gaulle avait été l'objet d'une protection lors de son voyage en Afrique. Il avait vu des sorciers ivoiriens. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire ou au Ghana, mais je crois plutôt en Côte d'Ivoire. On lui avait dit qu'il serait l'objet de nombreuses tentatives d'attentat dans sa vie publique et politique, et qu'on lui avait fait une espèce de filtre pour le protéger. Et tout est que, quand on regarde De Gaulle, il a échappé miraculeusement, je vous dis, à l'attentat du petit Clamart et il y a tant d'autres. Ce qui fait que cette protection, elle a fonctionné tant qu'il était président, mais peut-être qu'une fois qu'il était en retraite.
Ça n'a plus fonctionné.
Ça n'a plus fonctionné.
Alors, voilà. Un autre auditeur nous dit Pompidou, mais aussi Boumédienne, ont été victimes de la maladie de Van Delstroom, ça fait beaucoup dans le même temps, comme pièce de rechange de De Gaulle, beaucoup de candidats dans les années 60, Poher, C'est vrai.
Oui.
C'est Alain Poher.
Oui, oui, président du Sénat. Mais Poher, attendez, en fait, au Sénat, nous avons eu longtemps le Guyanais, Gaston Monnerville, qui était un farouche opposant de De Gaulle. Et De Gaulle, vous ne voulez surtout pas que ça soit Monnerville qui fasse l'intérim s'il partait. Donc, De Gaulle avait bien calculé que s'il partait, il fallait que ça soit Poher. Il était de Seine-et-Marne, c'était un élu de la campagne française, hein, de l'Île-de-France. Donc, tant que c'était Monnerville, il n'aurait jamais démissionné pour que ça soit Monnerville. Une fois que c'était Poher, mais Poher n'était pas sur les starting blocks politiques dans les années 60. Il était bon pour faire les intérims. Quand il était candidat face à Pompidou, il a fait un score honorable, mais il n'a pas fait un score capable d'être élu.
Un auditeur pose la question concernant le colonel Bastien Thiry.
Mais...
Savez-vous pourquoi De Gaulle a refusé de le gracier?
Alors, je ne sais pas, mais je pense que De Gaulle a réagi vis-à-vis d'un militaire face à un autre militaire qui commet une trahison. Je pense que De Gaulle avait aussi des principes assez rigides, et que quand c'est un militaire qui décide d'attenter à la vie d'un président, ben pour De Gaulle, c'était un crime qu'il ne pouvait pas, hélas, pardonner. Donc Bastien Thiry a été le seul fusillé, hein, je crois que c'était
le seul, d'ailleurs.
Hein.
Louis de Condé, qui s'est enfui, qui a été en exil pendant 4-5 ans, et puis pour une femme, je crois, il est revenu en France, il s'est fait arrêter, et il a été dans la cellule de Bastien Thiry, et il a été gracié.
Ah oui, il a été gracié en 68, parce que vous savez qu'après les événements de mai 68, De Gaulle a fait voter une loi d'amnistie, où il a effacé, par exemple, les gens condamnés après le Petit Clamart, mais il a aussi effacé les peines des généraux putschistes de 61.
Comment on l'explique, ça?
Ben, moi, je pense que en 68, il a quand même eu le vent du boulet, hein, par mai 68. Hein. Souvenez-vous, quand même, il y avait toute la France dans la rue, il y avait un mécontentement général. Il est parti à Baden-Baden essayer de demander de l'appui à Massu en disant « Mais qu'est-ce que fera l'armée si je suis chassé du pouvoir ?» Je pense que Massu l'a réconforté en lui disant « Ben, l'armée sera peut-être de votre côté, général, mais en tout cas, il faut revenir à Paris. » Et quand il revient de son voyage à Baden-Baden, on a un autre De Gaulle qui est transformé. Alors qu'au départ, il s'en va en se posant des questions, si le pays le refuse à ce point-là, qu'est-ce que je fais? Et une fois qu'il revient de Baden-Baden, il reprend la main sur le pouvoir. C'est là qu'il dit « Je ne démissionnerai pas et je vais dissoudre l'Assemblée nationale ». Pendant ce temps, il faut voir une chose aussi, c'est qu'il a commencé à y avoir de l'eau dans le gaz entre De Gaulle et Pompidou. Et que c'est Pompidou qui avait fait les négociations syndicales avec le jeune Chirac, les accords de Grenelle, où ils avaient donné quand même... c'est une époque de croissance, donc qu'on augmente le SMIC, les allocations...
On avait de l'argent, quoi.
On avait de l'argent, la France...
Il y avait des moyens d'arroser.
Il y avait les moyens de satisfaire, et puis on était dans les 30 glorieuses, on était en pleine croissance, tout le monde trouvait du travail. À l'époque, en 68, s'il y avait peut-être 50 000 chômeurs, c'était le maximum.
Ouais, putain, c'était la belle époque. Hein. C'est-à-dire, vous allez voir un patron, bonjour monsieur, voilà. Je sais faire ça, ben tenez, poil de main, vous êtes embauché.
Voilà,
c'est pas CV, lettre de motivation.
Non, tout le monde trouvait du travail. Voilà. Les salaires augmentaient, la France se construisait, on construisait des logements.
C'est pas l'époque, hein.
C'est une époque fantastique. Alors, je pense qu'il y a eu une grande divergence d'appréciation sur la conduite politique entre De Gaulle et Pompidou, puisque Pompidou fait son discours de candidature à Rome en 68, il annonce qu'il est prêt, il est en réserve de la République, comme il dit, il le fait pas de France, il le fait de Rome. Je pense que ça a déjà heurté un peu De Gaulle. Et ensuite, on a compris que de Pompidou, il y avait des différences par rapport à De Gaulle. Mais c'est normal, parce que il n'était pas de la même génération. Et quand même, Pompidou était quelqu'un de plus ouvert sur les arts, ça avait été un enseignant, c'était un lettré, il admirait et respectait le général de Gaulle, mais lui était quand même agrégé de lettres, il avait fait normale supérieure, c'était un étudiant brillant, ouvert sur le monde de la culture, des arts, donc on n'était pas dans le même schéma culturel et social. Et puis surtout, je pense que de Gaulle devait sans doute lui reprocher aussi sa proximité avec Rothschild, et puis peut-être, je ne sais pas, s'il avait une attitude différente vis-à-vis d'Israël, qui était quand même un sujet de discorde au gouvernement français. En 67, pendant la guerre des Six Jours, il y a quand même eu des discussions assez vives sur est-ce que la France doit soutenir ou pas Israël. Les questions se posaient. Et De Gaulle a dit non, on ne fournira aucune arme, on ne soutiendra pas Israël. Donc après, on a assoupli les positions, les choses ont été différentes. Et je reviens au fait que De Gaulle, encore en vie de 3 ans, ça aurait été quand même du poil à gratter pour les Américains.
Alors il y a un autre grande mort de la République. Et là, pour le coup, vous avez été, pas partie prenante, mais bon, vous avez été à cette époque témoin. C'est celle de Bérégovoy.
Oui, alors Bérégovoy, j'explique dans mon détail que je ne suis pas arrivé comme ça pour essayer de faire une enquête comme un journaliste. Non, moi j'étais nommé directeur des RG dans la Nièvre en 88. J'explique dans quelles conditions, que c'était le préfet Fournet, qui est l'ancien préfet de la Nièvre, qui m'avait choisi parce que j'avais un bon CV, que j'aimais la politique et que j'étais plutôt proche du RPR. Donc il me dit, ça vous va très bien, vous avez fait Sciences Po, vous êtes proche du RPR, c'est ce que je veux. Je ne veux pas de socialiste dans ce poste-là. Donc pendant 4 ans, d'abord quand j'arrivais à Nevers, au début ça a été un peu dur pour moi, parce que c'était vraiment le panthéon socialiste. En 88, Mitterrand venait d'être réélu. J'explique, 3 députés, 3 socialistes, 2 sénateurs, 2 socialistes, la plupart des maires socialistes, mitterrandiens. Donc pour moi, l'implantation a été un peu difficile au démarrage. Puis après, je me suis fondu dans le terrain. Et j'ai donc connu, non seulement Mitterrand et son entourage, je publie dans mon livre pas mal de photos où je suis tout près de Mitterrand avec ça.
Oui, parce que j'ouvre une parenthèse, il y a quand même, et on va continuer, c'est que il y a quand même un différentiel entre avant et aujourd'hui, c'est-à-dire que
bien sûr.
Avant, soit on était socialiste, RPR, et c'était un vrai différentiel. On pouvait venir de la même classe sociale, des mêmes milieux, le fait d'être de droite ou de gauche, ça différenciait les gens.
Absolument.
Aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est fini, ça.
Aujourd'hui, vous êtes des élites. Que vous êtes de ce grand parti du centre qui est pas réunifié.
Le centre mou.
Voilà.
Le centre mou.
Mais je veux dire, il faut être parti des élites, c'est-à-dire que il y a pas de différent droite gauche machin. Vous êtes du sérail.
Alors pendant 40 ans, 50 ans, on a vécu dans le système politique avec le logiciel communisme socialisme, puisque on s'inscrivait soit dans la gauche communiste, soit dans la gauche socialiste style Jaurès. Soit on n'y était pas, on était soit centriste, MRP c'était le parti centriste.
Ou alors à droite.
Soit on était gaulliste et on était les héritiers du mouvement bonapartiste.
Et là c'était un vrai différentiel idéologique. Voilà. Vous pouvez être deux frères ou mari, femme. Et ça vous aviez des embrouilles entre vous.
Voilà, les choses étaient claires. On était à gauche, on était à droite, on était du centre. Et à l'époque, il y avait peu d'extrême droite, il y avait peu d'extrême gauche. On n'était plus dans ce logiciel. Et le vrai changement, en fait, de paradigme, c'est à la dissolution du monde communiste et avec la mondialisation croissante. En fait, quand on réfléchit, la mondialisation, ça démarre avec la guerre de 14, mais on l'a surtout vu avec la fin du communisme, où on a vu un monde unipolaire dominé par les États-Unis qui voulaient imposé vis-à-vis de tout le monde, non seulement le libre-échange, le libre-marché, mais aussi leurs valeurs, parce que les Américains aussi voulaient imposer leurs valeurs. Souvenons-nous des débats sur l'exception culturelle, des débats à l'OMC, des débats à l'ONU, où les Américains voulaient chaque fois imposer leurs standards. Donc en fait, à partir de Maastricht 92, la vraie différence, c'est est-ce qu'on est européiste, mondialiste, ou est-ce qu'on est pour la France ? Je rappelle quand même quand, pour les élections européennes je crois que c'était en 99, Pasqua s'était allié avec Séguin, lequel Séguin avait contré Mitterrand en 92, au moment du débat sur Maastricht. Vous savez que Mitterrand, comme Chirac et comme toute la classe politique, si elle voulait avoir les chances de gouverner la France, il fallait qu'elle soit européiste et qu'elle fasse œuvre de soumission à la Nouvelle Europe. Et quand vous n'y étiez pas, vous étiez taxé d'extrême, etc. Et que ça soit Le Pen, que ça soit Chirac, que ça soit Pasqua ou Séguin, vous étiez contre l'Europe. Donc fatalement, vous étiez quasiment disqualifié d'accéder au pouvoir en France. Maintenant, je dirais que le schéma est à peu près le même. Soit vous êtes pour cette espèce de magma européiste à 28 qui n'a plus aucun sens, ni de faire la guerre à la Russie, soit vous êtes contre, et en disant on reprend d'abord nos valeurs à nous. Alors, on s'est un peu éloigné de l'histoire de la Nièvre, mais à l'époque, le clivage politique était très clair. Moi, j'avais des élus socialistes ou des élus de RPR ou des élus d'IF. Je faisais discuter avec eux de la politique. Je discutais aussi avec les élus communistes parce que c'était aussi des gens avec qui avaient une formation politique, qui avaient une certaine vision des choses. Parce que quand même, à partir de 22 juin 41, à partir de l'attaque du plan Barbarossa, l'attaque de la Russie par Hitler, les communistes se sont quand même vraiment engagés dans la résistance. Franchement, il ne faut pas leur enlever ce qu'ils ont fait pour nous. Maintenant, on dit tous que c'est les Américains qui ont libéré l'Europe, mais je suis désolé, c'est plus les Soviétiques qui ont battu Hitler que les Américains. C'est eux qui sont arrivés à Berlin en début 45, pendant que les armées américaines étaient encore en train d'affronter la Wehrmacht sur la rive occidentale de la RFA. Hein, cette guerre, elle a été gagnée plus par Staline que par Roosevelt. Il faut être clair. C'est plus les Soviétiques qui nous ont libérés que les Américains. Après, on a fait des films. On a réécrit l'histoire. Le jour le plus long. On a fêté le 6 juin 1944, cérémonie auquel De Gaulle ne voulait pas participer puisqu'elle avait été exclue du 6 juin 1944 de la préparation du débarquement. Bon. Alors, à cette époque où les étiquettes politiques étaient tranchées, c'était assez facile de travailler. Et ce qui faisait la différence, c'était finalement la personnalité, la culture, l'approche personnelle de chacun. Moi, j'explique qu'avec Bérégovoy, je n'avais pas eu de bonne relation parce que il m'a tout de suite pris en grippe parce que je n'étais pas de son milieu. J'avais fait des études, il pensait que j'étais un bourgeois du 16e. Il ne m'avait pas choisi, c'était le clan Mitterrand qui m'avait choisi. Donc nos rapports ont été assez distants au démarrage. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à connaître cet homme, à apprécier finalement, à voir que, comme il était issu de la base, CAP d'ajusteur, ajusteur fraiseur, d'arriver à où il était arrivé, secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires sociales, ministre des Finances. Et moi, j'explique le premier discours de Bérégovoy que j'écoute, je suis encore en poste au Havre. Il vient début 86 faire un meeting pour le Parti Socialiste. Je suis vraiment surpris que de cet homme, de sa culture financière, économique, il a travaillé ses dossiers. On voit que c'est le gars qui a étudié ses dossiers. Il connaît. Il connaît le franc, il connaît les taux d'intérêt, il connaît les problèmes de l'économie. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis dans la peau du ministre des Finances, alors qu'au démarrage, rien ne le prédestinait à ça. Donc j'ai apprécié cet homme qui avait beaucoup bossé pour être arrivé où il est arrivé, et qui en même temps, il avait un déphasage complet avec le monde politique. C'est-à-dire que, je l'explique, il avait gardé son même rêve de la gauche qui partage, d'une gauche honnête. On continue à récompenser les ouvriers, les employés, les gens qui travaillent, alors qu'autour de lui, dans le deuxième cité nord de Mitterrand, il n'y avait plus que des affairistes et puis des gens à l'honnêteté très, très peu recommandable.
Alors, on va revenir sur Bérégovoy, mais j'ai nombre de questions parce que cette discussion fait réagir. Chers amis, bonjour, des auditeurs qui nous appellent. Dire que le colonel Bastien Thierry, auteur de la tentative d'enlèvement de De Gaulle, fut manipulé par la CIA est une inexactitude historique et un outrage à la mémoire de ce grand ingénieur d'armement. J'ajoute que De Gaulle s'est fait manipuler par les Américains en cédant au FLN le Sahara. La CIA a financé le FLN pour que les compagnies pétrolières américaines récupèrent le pétrole français.
Que des pourquoi pas ? Moi, je veux pas, je peux pas contester si votre auditeur, il a des arguments, si c'est sourcé. Moi, je ne suis pas contre. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai discuté avec ce monsieur Laios Marton en 2002 et que lui, il n'a pas caché avoir travaillé pour la CIA. D'ailleurs, tout son parcours le prouvait et qu'il était bien dans le commando du petit Clamart. Il a tiré avec sa
Mais stagne. Est-ce que peut-être que Bastien Thierry, peut-être, aurait pu être le dindon de la farce ? C'est pas impossible.
Vous savez, quand on voit le cynisme, la façon dont agissent, que ce soit la CIA ou la MI6, les services secrets britanniques, tout est possible. Tout est possible. Hein. Vous savez que ces services sont très forts pour suivre les gens pendant des décennies, les manipuler et puis les mettre à l'endroit. Hein.
Parce que c'est pas parce que Bastien Thierry été un peu la tête pensante ou en tout cas le visage de ce petit Clamart, que c'est lui qui soit était la tête pensante, soit, même s'il était la tête pensante, il n'aurait pas T'es pas obligé de tout savoir. Il pourrait avoir des agents au sens son sein. Enfin, on peut tout. J'imagine que dans votre métier, cher Hubert, oui, vous avez vu tout genre de tous ces trucs, quoi.
Dans le renseignement, on voit toutes sortes de gens, toutes sortes de choses. J'explique que quand quelqu'un vient nous voir, on essaye de voir ses motivations. Qu'est-ce qu'il cherche? De l'argent, de la gloire, des passe-droits, des papiers. Donc tout est possible dans le renseignement. Je veux rien enlever à la mémoire de Bastien Thiry, mais peut-être qu'en cherchant aussi des appuis, des amis, puis des gens qui excusez-moi, qui avait les couilles pour aller tirer sur De Gaulle en 62, parce que on était quand même dans la pleine période gaulliste monarchique, hein, il avait tout pouvoir. Souvenez-vous que on est quand même un an et demi après le putsch des généraux et qu'on a eu quand même 6 mois d'article 16.
Article 16.
On a eu 6 mois d'article 16.
C'est Napoléon, quoi. Article 16, c'est l'empereur.
Voilà, justifié par le putsch des généraux à Alger, que nous avons la sûreté de l'État, que nous avons la peine de mort. Qu'on peut vous condamner à mort pour toutes sortes de crimes de droit commun ou politique. Donc la période est quand même n'est pas ce qu'on vit maintenant. On est encore dans le sortir de la guerre, hein, avec la vie dans certains cas n'a pas beaucoup de poids dans ce moment-là.
Alors tiens, question sur Boulin. Vous omettez totalement le message pathétique de Robert Boulin qui faisait l'objet d'une enquête pour son terrain de Ramatuelle et qui a accusé le juge Van Ruybeck, lequel lui a répondu dans un livre d'une totale indépendance. Il ressort que ce juge a fait honnêtement son travail et qu'il avait une cause judiciaire au suivi d'eux. Mais bon, c'est pas pour un terrain qui va suicider
le... Non. Alors, écoutez, moi, l'histoire du terrain de Ramatuelle...
Allez-y.
Je connais l'histoire. C'est un terrain que Boulin a acheté en 74 ou 75. Le promoteur, enfin, un des vendeurs, c'était Henri Tournet, qui lui avait apparemment caché certains faits, certains documents, en lui disant apparemment que ce terrain avait déjà été vendu avant lui, mais Boulin ne le savait pas, qu'il avait signé un acte authentique et que c'est après qu'on lui ressort cette affaire. Je rappelle quand même que ce fameux Henri Tournet, qui était un proche de Pasqua, qui était très proche du sac, qui a eu des complicités pour s'enfuir en Espagne et ensuite en Argentine, ce même monsieur Tournet a quand même été interviewé en 2017 ou 2019, enfin il y a quelques années, peu avant sa mort. Il est mort tranquillement à 95 ans, hein, monsieur Tournet. Il a déclaré lui-même que c'était un meurtre, l'affaire Boulin. Lui-même l'a dit, c'était un meurtre. Et qu'on avait, on lui avait demandé de faire cette histoire de terrain, de faire cet embrouille de terrain, justement pour justifier ensuite une enquête judiciaire et une éventuelle dépression servant de cadre à l'assassinat.
Personne ne va se suicider pour un terrain. Enfin, arrêtez.
Mais non. Pas plus que pour le prêt sans intérêt de Bourrego, on va en parler.
Bah oui. Dans l'affaire de Dubreuil, Pierre de Varga, avec un casier judiciaire de délit financier assez impressionnant, convaincu d'associations de malfaiteurs de crimes à motif crapuleux avec préméditation et une escroquerie à l'assurance, de plus sera condamné à 10 ans, qu'il passe essentiellement à la salle Cusco de l'Hôtel Dieu, qui ne devait recevoir que des prévenus en cours de procès au palais d'infirmerie pour le quai des Orfèvres, jusqu'à l'avènement de Mitterrand. À l'Hôtel Dieu, Pierre de Varga recevait ses avocats, son épouse dévouée et autres, et peignait des tableaux symboliques très intéressants. Dubreuil n'avait-il pas été viré du poste de trésorier des Républicains indépendants par Giscard pour cause de mauvaise fréquentation dans un milieu de vente d'armes où il convient de ne pas étouffer les commissions? Dans les affaires étranges plus récentes, qu'en est-il de la tuerie chevaline qui ressemble étrangement à une affaire de nettoyage? Il me semble avoir lu dans un livre sur les opérations secrètes de la Seconde Guerre qu'une opération alliée avait pour code chevaline, mais je n'ai pu retrouver la référence. Une opération Jedburgh, peut-être.
Oui, alors chevaline, c'est une enquête à faire. Hein. C'est un vrai mystère. Hein. On ne sait pas si le tueur voulait tuer vraiment la famille de ces... Cet ingénieur.
Ou le cycliste, là, je ne sais pas.
Ou le fameux cycliste, on ne sait pas qui était vraiment l'objectif. Enfin, il y a encore des mystères dans l'histoire de Chevaline. Qu'est-ce qu'il est.
Avec De Varga.
Oui, alors De Varga, effectivement. Alors De Varga, c'était tout un poème de Varga. Il a fait des affaires plus ou moins honnêtes pendant la guerre, donc il s'est enrichi sous l'occupation. Il avait un passé assez glauque. Effectivement, il avait de nombreuses condamnations parce que c'était un peu un escroc mondain. Alors, je pense que, enfin, d'après ce que je me souviens, je pense que la rencontre entre Dubreuil et De Varga est assez récente avant le meurtre. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas depuis des années. Je pense qu'ils se connaissaient depuis quelques mois. Je ne sais plus à quelle occasion. Il faudra que je relise des documents, des documents là-dessus. Mais c'était vrai que qu'est-ce que faisait De Breuil, l'ancien trésorier du Parti des Républicains Indépendants, avec ce De Varga. On avait là un beau cocktail pour justifier cet assassinat. Parce que l'assassinat, il a quand même été bien préparé par. Par ce Guy Simonet et chapeauté par l'Élysée.
Oui, mais c'est pas un assassinat de pied ni clé.
C'est professionnel. C'est professionnel. Il sort, ils l'attendent, il reçoit 2-3 balles et il meurt sur le coup. Et là, il devait partir, en fait, le tueur devait faire 50-100 mètres. Et il se trouve que Simonet était en face avec sa voiture et que le tueur s'est précipité dans sa voiture et qu'ils ont été arrêtés peu après. Voilà.
Bon, on revient sur Bérégovoy. Nous reste 12 minutes, donc voilà.
Pas de problème, on y revient.
Voilà, on continue sur Bérégovoy.
Mon livre, alors d'abord, on est estomaqué par l'histoire Bérégovoy, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. En gros, il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que quand on voit maintenant, dès qu'on découvre encore toutes les opérations qu'on fait, on gèle les lieux, on prend des photos, on interroge des témoins, etc. Il n'y a pas d'enquête. Moi, quand j'ai commencé l'enquête Bérégovoy en 2001, comme j'étais l'ancien directeur d'ERG, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des gendarmes, avec des pompiers, avec des médecins.
Oui, mais pourquoi vous n'avez pas cru justement à cette affaire, à la version officielle ?
Alors, je ne l'ai pas cru immédiatement parce que celui qui m'a dit la vérité 2 jours après, c'est Omar Bongo, le président du Gabon.
Parce que vous étiez bras droit d'Omar Bongo.
Bah, j'étais pas le bras droit.
Vous avez bien travaillé avec lui, en tout cas.
J'étais pas le bras droit. J'étais le bras droit du directeur de la police du Gabon et qui, lui, était un très proche de Bongo. Bon. Alors, moi, quand j'ai.
Et Bongo, il savait tout sur tout.
Bongo, c'était le grand détenteur des secrets de la politique française. Donc, samedi 1er mai, moi, je suis avec ma famille. Je crois que j'étais à la plage à Libreville. Et puis, on apprend le suicide de Bérégovoy. Moi, je tombe à la renverse parce que je connaissais le bonhomme. Je connaissais quand même sa solidité. Le fait que c'était pas un homme qui allait sombrer comme ça. J'apprends le suicide, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de suicide? Alors, la boîte à gants, le pétard dans la boîte à gants, je dis, mais c'est grotesque. L'histoire ne s'explique pas. Et moi, quand j'arrive le lundi matin à mon bureau, le général Ossiali Ngaï, qui était le patron de l'époque de la police gabonaise, m'appelle en me disant, écoute, il faut que... J'ai un coup de fil urgent, tu vas voir. Il faut que le patron veut parler avec toi. J'ai le patron, il me dit oui, Omar Bongo veut discuter avec toi. Et j'ai Omar Bongo au bout du fil qui me dit avec son accent inimitable, c'est pas un suicide, c'est Mitterrand qui t'a fait tuer. Moi, je tombe à la renverse parce que toute la presse française est sur le suicide et moi j'ai Omar Bongo qui me dit confidence. Alors je tombe. Et je raccroche, j'ai dit, mais général, il me dit, tu sais, parce que je tutoyais avec le général, il me dit, tu sais, il est très ami avec François de Grossouvre, et puis avec tous les relationnels qu'a Omar Bongo, il peut dire qu'il n'y a pas un secret.
De Grossouvre qui s'est lui aussi suicidé bizarrement à l'Élysée.
Un an après, le 6 avril 1994. Donc moi, dès que j'ai l'information par Bongo, je sais que l'hypothèse du suicide est fausse, mais qu'est-ce que je peux faire d'un tel secret d'État? Je ne peux rien en faire. Mitterrand est président. Et puis surtout, attendez, on a quand même une droite en face. On redémarre, on est en deuxième cohabitation. Le Premier ministre, c'est Balladur, le ministre de l'Intérieur, c'est Pasqua, qui est revenu à l'intérieur tout seul. Il n'y a plus Pandreau avec lui. Il a la haute main sur le ministère de l'Intérieur, sur la place Beauvau. Donc, moi, à l'époque, je connaissais des gens, des proches de Pasqua. Je me suis dit, quand je vais arriver en 93... Ils vont vouloir me rencontrer, discuter, comme vous connaissiez Bérégovoy, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, j'ai le silence total. C'est ça qui me frappe. C'est en me disant, mais les circonstances de la mort de Béré sont très bizarres, très étranges, très mystérieuses. Et la droite, l'entourage de Chirac, de Pasqua, etc., ils ne me demandent rien. Alors qu'ils savaient que ça faisait 3-4 ans que j'étais en bisbille avec Bérégovoy. J'étais d'ailleurs... J'en avais d'ailleurs parlé avec un journaliste, j'en parle dans mon livre, avec Philippe Alexandre, qui était un sacré journaliste.
De Libé.
Ouais, un sacré journaliste d'Europe 1 et d'investigation. T'es un journaliste, un grand nom de l'investigation. J'étais allé en parler aussi avec Marcel Leclerc, l'ancien directeur de la brigade criminelle de Paris, parce que Leclerc était à l'époque le directeur de cabinet de Pasqua. Donc je vais le voir, je donne la date, je m'en souviens précisément. C'était le 21 janvier. 1993. Et quand je suis allé voir Leclerc, j'ai dit, vous savez, monsieur le directeur, je l'appelais monsieur le directeur, ou monsieur le préfet, il était préfet, dit, aujourd'hui, nous sommes exactement 2 siècles après l'exécution du roi Louis XVI, 21 janvier 93. Et donc, nous avons parlé de Béret. J'ai dit, vous savez, j'ai travaillé pendant 4 ans dans la Nièvre, je connais tout le monde, et je crois que Béret est un peu mal parti. Parce que moi, il y a des journalistes du Canard qui sont venus me dire qu'on préparait quelque chose contre lui. Moi, je pense qu'il a une campagne de presse qui se prépare, ils vont essayer de le salir, etc. Mais je ne pouvais pas penser une seconde qu'on allait l'éliminer. Et quand je reviens en France après l'affaire du Canal, je pense que l'entourage de Pasqua, rien du tout, rien. Donc ça m'a paru très curieux, je suis allé voir le garde du corps, qui m'a raconté la thèse officielle, que je n'ai pas cru une seconde. Puis moi, vous savez, je suis jeune commissaire principal, je suis en fonction, je suis en poste. La police est quand même quelque chose de très hiérarchisé. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On se fait vite taper sur les doigts. Il faut voir aussi une chose, c'est dans l'affaire Boulin, vous verrez l'histoire de Gilles Leclerc, le gars de la PJ qui a écrit un bouquin, lui, il soutient le suicide de Boulin. Bon, c'est à lui que ça appartient. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il a totalement été assassiné, le malheureux Boulin. Mais son attitude vous explique bien que la police est hiérarchisée. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mettre en porte-à-faux la hiérarchie. Que si vous faites quelque chose qui ne convient pas ou que vous écrivez quelque chose de grave, on va vous taper sur les doigts. Donc moi, à l'époque, je ne peux rien en faire de l'histoire de Bérégovoy. Je m'interroge, je vais voir des gens de la mairie, etc. Et de plus en plus, ma conviction est faite. Et c'est en 2001, donc 8 ans plus tard, quand je reprends contact avec Bertrand, qui me dit, allez-y, enquêtez, nous on sait à peu près ce qui s'est passé, mais comme vous avez été à Nevers pendant 4 ans, vous êtes l'homme idoine pour faire cette enquête. Donc moi je vois des tas de gens, je récupère des documents, et je récupère notamment les seules et uniques photos que nous avons de la découverte de Bérégovoy. Parce qu'imaginons une chose, c'est qu'on retrouve un Premier ministre avec, non pas une balle, mais 2 balles, 2 petites balles de petit calibre. Et j'explique dans mon livre qu'il est impossible qu'il se soit tiré avec un 357 Magnum, parce que si c'était un 357 Magnum, la tête, elle aurait volé un éclat. On n'aurait plus de tête. Or là, la tête, elle est intacte. Et donc moi, je récupère la planche de photos prise par un photographe du Journal du Centre qui était avec le capitaine des pompiers. On lui demande de partir, mais il fait vite le tour et il va flasher, il va mitrailler avec son appareil photo la découverte du corps de Bérégovoy. Cette planche, elle est reproduite dans mon livre. Et on voit bien, entre toutes ces photos et puis celle du corps qui est au bord du canal, on voit bien que Bérégovoy, la tête est intacte. Donc la version officielle, elle est fausse, elle est totalement fausse. Après, je vais voir des médecins qui m'ont dit qu'ils ont vu les clichés, les radios, et que la tête était intacte, et qu'il avait 2 balles de petit calibre. Une intacte et une qui s'est écrasée. Et après, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver des témoins auditifs, parce qu'il y avait des gens qui étaient sur place. Je retrouve un vieux monsieur, je retrouve un pêcheur à la ligne, qui m'explique qu'ils ont entendu 2 grands coups de feu à 17h50. Et l'heure, elle est très importante, parce que 17h50, à cette heure-là, Bérégovoy, il sort du camping, il sort du canoë-kayak. Il est à 17h50, il a laissé son garde du corps, il est avec son chauffeur. Donc quand on entend les 2 grands coups de feu, visiblement, le garde du corps n'a plus son 357 Magnum. Il l'a donné à l'équipe qui est chargée d'attendre Bérégovoy. Et là, nous avons d'autres témoins à 18h15. Ce sont 3 jeunes qui faisaient de la musique dans les parages, et eux, ils entendent 2 coups secs. Clac, clac. Et quand ils entendent ces coups, ils descendent sur le chemin et ils se trouvent face à une dame avec un petit chien et avec 2 colosses, 2 malabar, qui étaient avec des impermastiques, qui leur disent « Partez, partez, vous n'avez rien à faire là ». Et visiblement, c'était les gens qui s'étaient occupés du suicide de M. Bérégovoy. Donc, aucune enquête n'a été faite, aucune enquête de police sérieuse n'a été faite. Donc, moi, j'ai retrouvé des témoins auditifs, des témoins oculaires, et ensuite, j'ai mis bout à bout des cambriolages, parce que moi, j'étais victime d'un cambriolage en avril 92. Et quand j'ai refait l'enquête, j'ai retrouvé son photographe à la mairie qui avait été cambriolé, l'attaché de presse de Bérégovoy à Paris qui avait été cambriolé. Et puis, j'ai retrouvé aussi le cambriolage à l'Assemblée nationale. On a ouvert le coffre de Bérégovoy à l'Assemblée nationale en pleine nuit pour essayer de prendre des documents. Ça montre très bien qu'on n'avait pas affaire à des petits délinquants de banlieue, mais on avait vraiment des gens qui, pour moi, étaient de la cellule de l'Élysée, qui étaient là pour récupérer des documents qu'avait Bérégovoy avec lui et qui étaient gênants pour la classe politique française. Alors, comme j'explique, à cette époque-là, ministre des Finances de 1984, en gros, jusqu'en 92, jusqu'à ce qu'il soit Premier ministre, les nombres de sujets, les nombres de valmersations, de détournements, de scandales financiers, mais c'est énorme. C'est Urbain Gracco pour le PS, c'est le scandale Elf qui arrive, c'est les frégates de Taïwan qui passent en quelques jours passent de 11 à 16 milliards de francs, c'est des rétrocommissions dans plein de marché, c'est une accumulation de dossiers. Et quand on est ministre des Finances à Bercy, ben on en a des dossiers. C'est la tour de contrôle. Donc il avait dû récupérer des documents qui, à mon sens, il les avait mis à l'abri dans son fameux bureau du Palais Ducal, puisque avant d'aller au canal, il est allé récupérer des documents au Palais Ducal.
Merci, cher Hubert. Donc, il y a toute cette enquête sur ce livre. Comment s'appelle-t-il, ce livre ?
Face à l'état profond, 10 ans aux renseignements généraux de Mitterrand à Sarkozy. Et c'est voilà. Le tome 1. Et
Hubert Marty Vraillance, face à l'état profond, 10 ans au RG. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ?
Vous pouvez l'avoir sur mon site hubertmarty.fr. Hein, et puis si vous n'allez pas sur hubertmarty.fr, vous pouvez aussi
Amazon, tout ça.
Sur Amazon. Et j'ai sorti le livre audio.
Ouais.
Pour ceux qui sont malvoyants, malentendants, ils peuvent acheter sur Amazon le livre audio.
Très bien. Voilà. Et un deuxième tome arrive.
Ah voilà. Alors le tome 2, c'est l'enquête que je suis en train de mener concernant l'accident de Diana sous le pont de l'Alma.
L'accident, ouais.
L'accident. Voilà, c'est un pneu qui était mal, voilà, qui était dégonflé.
Il roulait pas comme le demandait Anne Hidalgo.
Non, pas
et donc
du
c'est
tout.
À cause de ça en fait.
La voiture s'est déportée sur une piste cyclable et voilà.
Voilà, malheureusement. Voilà. Donc voilà, Hubert Marty Vraillance, allez-y, achetez vraiment le livre, il est passionnant, très gros livre. Vraiment, je pense c'est un livre pour être à la plage en plus.
C'est un livre pour être à la plage. Bon, il est un peu bon, 529 pages, mais je dirais.
Mais il y a énormément d'informations. Vous apprendrez énormément de choses,
d'informations sur le personnel politique, la police, sur les secrets d'État que j'ai pu écrire là. Et ça nous permet, à mon sens, d'avoir une vision de ce qui se passe de nos jours en 2026 en France.
C'est clair. Merci beaucoup, cher Hubert. Voilà. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux. Merci Arnaud. Merci Patrice. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Salut, ciao.
Merci, au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses, dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 18 juillet 2026, de 10h30 à midi, et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.